Ce podcast du OFF 2018 vous est offert par la Maïf, assureur du Festival d'Avignon.
Osmose Radio.
Osmose.
Osmose.
La web radio du OFF.
Vous apprendrez bien vite qu'au théâtre, le meilleur se passe souvent en coulisses.
Être ou ne pas être au Festival d'Avignon, c'est la question qu'on peut se poser encore une fois.
Un œil en coulisses, l'émission qui débauche les artistes et les déloge le temps d'une heure.
Vous allez d'un théâtre à l'autre au sein de la ville d'Avignon qui vous accueille pendant vos vacances au mois de juillet dans le sud-est, chers amis. Quelque chose me dit que vous êtes un petit peu nomade pour aller voir un spectacle ici, un autre ailleurs. Et zut, mon portable m'interrompt quand je parle. Décidément, on n'en sort pas. Et quoi qu'il en soit, eh bien, si je suis en désaccord avec mon téléphone portable qui sonne n'importe quand, le petit chenapan, par contre, je suis tout à fait en accord pour ce qui est de leurs goûts musicaux avec les invités que j'ai aujourd'hui. Ils jouent au théâtre des Amants. On va pas faire de jeu de mots hein, sur le fait que vous soyez venus tous les deux, petit chenapan. Et vous jouez à 22h au Théâtre des Amants. Alors déjà, le nom est très romantique. En plus, ça se situe place du Grand Paradis. C'est dire si vous nous emmenez sur un petit nuage quand, pendant votre concert. Et ça se situe, c'est pas forcément facile à trouver, c'est les petits trucs qui se situent entre le Théâtre du Chêne Noir et la Place des Carmes, un de lieux emblématiques du Festival OFF. Donc je vous laisse vous débrouiller avec un plan, mes chers auditeurs d'Osmose Radio. Mais je vous invite à aller retrouver à 22h au Théâtre des Amants le spectacle à Accord Nomade, un concert pour lequel je reçois Jérôme Breitman. Bonjour.
Bonjour.
Alors évidemment, je vous taquinais en introduction à cette émission, mais c'est ma marque de fabrique, pardonnez-moi. Et à côté de vous se trouve Sandra Langlois.
Bonjour.
Alors Jérôme Breitman, vous appelez, ça s'écrit en fait Breitman, ça voilà. Se prononce Breitman. Donc vos ancêtres ont un petit peu falsifié leurs papiers avant de venir en France au 19e siècle.
Hein. Exactement.
Voilà, déjà à l'époque il y avait des migrants. Mais bon, on ne regrettera pas d'avoir accueilli vos aïeux puisque vous jouez une musique tout à fait intéressante et que vous la jouez au Festival d'Avignon, ce qui nous concerne d'autant plus, jusqu'au 29 juillet à 22h, disais-je. Et à côté de vous, Sandra Langlois, en fait, tous les deux, vous vous êtes retrouvés. Quand bien même vous venez interpréter au Festival d'Avignon de la musique improvisée, de la musique un petit peu bohème, en fait, vous vous êtes connus dans une institution musicale, tous les deux.
Tout à fait.
Vous avez tous les deux une formation
classique.
Académique, voilà, oui. Classique, solide. Oui. Et c'était où, en fait?
Très loin de chez vous. Au Conservatoire d'Aubervilliers-la-Courneuve. Qu'on remercie encore d'ailleurs pour la formation qu'ils nous ont apportée.
D'accord. Et finalement, vous avez fait une partie de votre formation à Genève, si j'ai bien compris.
Moi et le violoncelliste du Quatuor. Oui.
D'accord. Ok. Parce que, la Suisse, c'est marrant que vous me parliez de la Suisse tout à l'heure en préparant cette émission, parce que j'ai appris récemment qu'en Suisse aussi, ils avaient leur entre guillemets gitan qu'on appelle là-bas les Yéniches, et exact. Qui eux aussi font une musique très intéressante avec plus d'accordéon sans doute. Mais là aussi, on retrouve cet esprit manouche gitan, enfin des Roms d'Europe centrale pour le coup. Mais vous, c'est plutôt les Roms du sud de l'Europe qui vous intéressent, Jérôme Breitman, avec lesquels vous avez fait faux classe en quelque sorte. Vous nous expliquerez ça un petit peu mieux tout à l'heure. Et alors, ce spectacle Accord Nomade est un de vos nombreux projets musicaux, puisqu'en fait, en jetant un œil sur votre site internet, très bien fait au demeurant, je vois que vous multipliez les collaborations, les projets et les aventures musicales en quelque sorte. Alors, vous-même, vous venez d'où en fait? Quelles ont été vos influences, par exemple, quand vous étiez petit, au moment où vous avez décidé de passer, par exemple, du piano à la guitare?
Alors, je me souviens plus tout à fait à quel moment j'ai décidé, mais...
Ah, c'est marqué sur votre site, 5 ans.
Non, j'ai commencé le piano à 5 ans.
Ah, d'accord.
Et j'ai dû arrêter vers l'âge de 12 ans, et c'est là que... Bon, j'ai voulu jouer, parce que le piano, c'était un instrument pour moi très solitaire, très beau, j'adorais le piano, mais beaucoup trop solitaire, j'avais envie de partager la musique, de jouer avec des copains, etc. Et du coup, je me suis mis à... Je piquais la guitare de mon père, qui jouait quelques accords déjà, et il m'a montré les accords de base, et puis c'est comme ça que j'ai pu jouer un petit peu avec les copains, du plus de la pop, et puis un peu de blues, etc. Et puis j'ai continué après, je suis revenu au classique, mais sur la guitare.
Très bien. Et bien écoutez, on ne s'en plaindra pas. Et du coup, alors vous êtes dans ce projet musical, vous avez choisi d'associer la musique, une formation classique avec des influences manouches en fait. Mais je me dis que vos influences, elles sont peut-être plus multiples et diverses. Vous revendiquez un petit peu cet héritage gitan que vous êtes allé chercher, hein, ce n'est pas dans vos racines.
Tout à fait.
Mais quelles seraient vos autres différences musicales? Parce que vous avez cité le rock, le blues, par exemple.
Alors, depuis des années, donc j'ai eu cette formation classique à à la Courneuve-Aubervilliers avec un excellent professeur, Pierre-Antoine. Merci. Et parallèlement à ces études, je me suis formé dans différentes formations de musique du monde, musique des Balkans, musique tzigane, musique brésilienne, musique un petit peu aussi musique indienne. J'ai grandi donc à Paris et pour ça j'ai eu la chance de rencontrer pour chaque type de musique les musiciens locaux qui jouaient cette musique. Donc je jouais des fois dans 7 groupes différents avec des Brésiliens, après avec des Indiens, après avec des Serbes, etc., etc. Et c'est comme ça que ça m'a ouvert plein de portes et puis ça a enrichi mon jeu. Et c'est plus tard que je suis parti de Paris, j'ai habité en Ariège et j'ai fait la rencontre d'une famille de Sinti. C'est une branche des gitans de
d'Égypte, non ?
Non, les Sinti viennent d'Italie. C'est les Sinti piémontaise, du Piémont italien. Et il y a une branche de Sinti qui s'est installée dans le sud de la France. Et Django était Sinti aussi.
D'accord, Django Reinhardt, le fameux.
Voilà.
Django Reinhardt.
On parle de jazz manouche, mais en fait, les manouches c'était plus de l'est de la France et l'Allemagne, mais Django était Sinti.
D'accord, ouais. Ben là vous me l'apprenez. Et pardonnez-moi d'insister, mais il n'y aurait pas Brassens dans vos influences ?
Brassens, bien sûr.
Ah, quand même, non, parce que sur votre site, il y a une illustration où on vous voit au pied d'un arbre avec votre guitare.
Alors là, Auprès de mon arbre,
je vivais heureux. Pom, pom, pom. Voilà, donc j'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Vous me pardonnerez cette petite taquinerie. Et quant à vous, Sandra, même dilemme en quelque sorte, si je peux me permettre de poser les choses comme ça, parce que d'une formation académique qui est absolument géniale, qui permet d'avoir une maîtrise des instruments et du solfège, qui permet d'aller très loin par ailleurs, à partir du moment où on a cet esprit analytique, il faut aussi savoir s'en garder et être ouvert d'esprit à autre chose. Parce que quand on aborde des systèmes musicaux et aussi des systèmes de pensée carrément, qui sont basés sur le quart de ton, sur la spontanéité rythmique, sur des rythmiques ternaires ou complexes, on sort vraiment des cadres académiques de la musique telle qu'on l'enseigne en Europe. Et pour vous, comment s'est passée la démarche au travers de rencontres aussi, j'imagine ?
Moi, c'est toujours pour nourrir, tout peut se nourrir, les musiques, les esthétiques se nourrissent les unes les autres. Et moi, j'ai beaucoup enseigné et j'ai toujours privilégié ça, c'est-à-dire que mon enseignement, j'ai essayé de donner à mes élèves le plus d'esthétique possible. J'aurais appris à faire des boogies, à faire de la musique latine, à faire voilà. Et évidemment, les racines de tout, c'est la musique classique pour moi. Mais tout se nourrit et c'est pour ça que pour moi, j'ai voulu le faire et je trouve que c'est génial. Voilà.
Très bien.
Alors, plus ça se mélange, plus c'est formidable.
Et justement, vous citiez cette influence des gitans, vous parliez des Sinti à l'instant, et on va entrer un petit peu dans le vif du sujet, puisque votre idée avec ce spectacle à Cornomade, ce projet musical à Cornomade, déjà rien que le nom me paraît à titre personnel un petit peu antinomique, parce que accord, ça évoque plutôt la verticalité, l'harmonie, et puis nomade, ça évoque un peu la fugue, la mélodie, le voyage, donc du coup, ça fait un petit peu paradoxal comme nom, enfin, quand on a une vision un peu poétique des choses comme moi, mais heureusement pour vous, tout le monde aurait j'y parle pas comme moi. Et donc à Cornomade, ce nom en fait évoque pour vous une démarche particulière qui évoque un petit peu tout votre background que vous venez un petit peu de nous préciser, à savoir associer la rigueur et l'exactitude et l'élégance d'un quatuor à cordes et en même temps la spontanéité et le jeu peut-être un petit peu plus j'ai envie de dire brouillon mais c'est pas le terme, mais disons que c'est la spontanéité peut-être plus naturelle du swing manouche. Et en fait, votre idée, c'était de faire ça par rapport au quatuor Hanuman. Mais avant le quatuor Hanuman, il y a le duo Hanuman que vous incarnez tous les deux. Ça a été un de vos projets musicaux. Et ça vient d'où ce terme, Hanuman ?
Alors, Hanuman, il y a deux sens. Le premier, c'est le nom d'un dieu hindou.
Le dieu singe des hindous, du culte hindouiste, voilà.
Voilà. Et puis le second, c'est le titre de la dernière composition de Django Reinhardt.
La dernière qu'il ait composée avant sa mort, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Hanuman. Et qui veut dire en romani, je suis venu. C'est un des sens.
D'accord, en Roumanie, en Bulgarie aussi, je sais. Mais pour le coup, enfin, c'est un terme, moi je pensais que c'était du bulgare, pour ne rien vous cacher. Et c'est vous qui m'avez appris il y a 10 minutes qu'en fait ça signifiait ça, mais dans la langue des Roms, pour le coup, des Roms d'Europe centrale. Donc, un terme en fait qui nous donne quelques éléments d'explication, qui nous plonge dans cet univers. Et vous avez associé les deux, vous travaillez, alors c'est une première représentation au Festival OFF. Pour autant, la création, elle, vous l'avez travaillé depuis plusieurs années.
Ça fait un an et demi qu'on travaille dessus, sur le projet. Au début, c'était vraiment un concert. Et puis, on a eu l'idée par les connaissances, etc. Je connaissais les directeurs du Théâtre des Amants, que j'ai contactés, qui nous ont accueillis chez eux pour une répétition déjà. Et puis, ça leur a plu. Ils nous ont dit « Ok, pour 22h, le créneau, super ». Donc, on est parti. On s'est lancé là-dedans, mais on s'est lancé là-dedans au mois d'avril. Vraiment juste, vraiment juste avant la fin des programmations, de l'inscription aux programmations du OFF, etc. Donc ça a été un peu la course pour monter le spectacle. Et puis on l'a réussi, on l'a fait, voilà. On est très très content du résultat, parce que là c'est vraiment un spectacle musical avec aussi des textes d'Alexandre Romanès.
Le fameux circassien. Tout d'accord, oui, qu'effectivement, qui était interviewé l'autre jour, ben, je vais dire, chez nos confrères de France Culture, et qui parlait un petit peu de sa démarche en tant qu'artiste global, j'ai envie de dire, puisqu'on le connaît pour l'aspect son travail avec les chevaux et au niveau du cirque, mais il a bien d'autres ressources dans sa besace. Et effectivement, moi j'insistais sur le côté musical, parce que c'est surtout ce que j'ai travaillé en préparant cette interview, mais effectivement, vous avez des intermèdes, alors vous nous précisez les textes notamment, mais depuis le mois d'avril, vous avez réussi à mettre autre chose en place, j'imagine qu'il y a des intermèdes. Vous avez des textes entre les morceaux, vous avez
c'est
autre
ça.
Chose
Il y a, non, c'est assez simple. On a repris Monsieur Alexandre Romanès, donc qu'on remercie vraiment.
Et comment lui a réagi au fait que vous repreniez ses textes?
Mais écoutez, c'était très simple. Je l'ai appelé, j'ai trouvé son numéro. J'ai trouvé le numéro de Delia d'abord, sa femme. Je l'ai appelé, qui m'a gentiment transmis le numéro d'Alexandre Romanès. On s'est eu au téléphone, je lui ai parlé de notre spectacle qu'on jouait à Avignon, qu'on aimerait beaucoup lire quelques-uns de ses textes pendant le spectacle. Et il m'a dit, écoutez, il n'y a pas de problème, vous prenez tout ce que vous voulez. Tout ce que je veux, c'est que vous annonciez que les textes sont de moi, mais voilà, c'est tout. Donc merci beaucoup à lui, parce que... Voilà,
c'est très bien. Donc vous associez un petit peu les deux. Et alors moi, à titre personnel, ça n'engage que moi, bien entendu. Mais quand j'ai lu un petit peu le principe de votre mariage musical entre une formation classique et de la musique manouche, qui consiste peu ou prou à associer, bah vous le faites, vous ne vous en privez pas, Jean-Sébastien Bach avec Django Reinhardt, pour citer seulement ces deux grandes figures de la musique, eh bien, moi j'ai pensé à un groupe que j'aimais beaucoup quand j'étais petit, un groupe de la fin des années 60 qui s'appelait Exception. Un groupe pas très connu en fait, ils associaient à l'époque la pop musique des 60s avec de l'orgamande, avec de la flûte traversière, un petit peu comme Jethro Tull le faisait en Angleterre à l'époque, c'était la grande période psychédélique on va dire, et eux-mêmes venaient du conservatoire et avaient adapté les airs de Jean-Sébastien Bach mais en version pop musique. Et ça marchait, ça swingait en quelque sorte. Je sais, disons que déjà dans la musique on n'a pas attendu le jazz, le swing et la musique manouche pour savoir que dans il y a une valeur, une musicale, une valeur rythmique dansante dans les musiques classiques. On a tendance à l'oublier, mais souvent c'était des... Jean-Sébastien Bach, par exemple, ne se privait pas d'aller écouter les paysans quand ils chantaient après les moissons, par exemple. Et en fait, c'était souvent des chants de travail pour lesquels on a besoin d'un rythme pour prendre le rythme du travail, faufonner le lin, battre le blé, ce genre de choses, ou tout simplement des chants de danse pour célébrer la fin des moissons, les vendanges, tout ça. Et donc, dans tout ça, c'est le rythme, c'est le sang et la sueur, c'est le rythme du travailleur, et tout ça, ben, c'est incarné dans le swing au point que le terme est devenu générique que je l'utilise dans cette interview. Mais en fait, cette valeur rythmique, dansante et pulsionnelle existait déjà bien avant, notamment chez Jean-Sébastien Bach, et ce groupe Exception avait réussi à ressentir ça et le retranscrire en musique. Et quelque part, dans un style tout à fait différent, parce que en ce qui vous concerne, c'est pas le rock'n'roll, c'est le swing manouche. Eh bien, vous avez un peu la même démarche. Est-ce que mon point de vue vous paraît cohérent? Est-ce que vous-même vous avez ressenti cette pulsion rythmique, dansante et presque surnaturelle quelque part dans les musiques des siècles passés?
Bien sûr, c'est pour ça que ça, le mélange se fait si si bien, c'est pour ça que ça marche.
Vous y êtes un petit peu pour quelque chose, il y a une question de talent quand même.
Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une chose, c'est que en vivant un petit peu avec la famille de Rabuffetti, Lafont, dans le sud de la France, j'ai compris que c'était un état d'esprit de tout transformer avec leurs accents, avec leur rythmique de façon naturelle. Et c'est comme ça que ça a déteint un petit peu sur moi et ça m'a donné envie de faire ce projet avec le Quatuor à cordes à Noumane. Mais de toute façon, vous parliez du rock, mais c'est la même chose, c'est juste la forme qui change, mais le fond et le principe est le même. C'est tout à fait semblable.
On voit ce que vous voulez dire. C'est vrai que les mots sont parfois impuissants à décrire des vibrations musicales. Qu'en l'occurrence, on pourra mieux comprendre en écoutant votre musique lors du concert, je crois. Mais quoi qu'il en soit, par contre, il y a un autre aspect qui, à vos souhaits, monsieur, qui éternuait dans ce hall du Nouveau Hôtel qui a la gentillesse de nous accueillir. Mais parfois, le passage de l'air pollué du boulevard Saint-Roch à l'air climatisé crée parfois quelques éternuements. On ne vous en voudra pas, monsieur. Quoi qu'il en soit, justement, un autre aspect qui m'intriguait, c'est que vous-même, vous êtes un gadjo, c'est-à-dire que vous n'êtes pas gitan du tout.
Oui.
Pourtant, vous êtes... je ne vais pas dire imposé, parce qu'il n'est pas question de s'imposer dans ce milieu-là. Vous vous seriez fait botter les fesses. Mais vous avez quand même réussi à approcher des familles gitanes du sud de la France. Vous parliez de Sinti tout à l'heure. Et en fait, vous avez collaboré. C'est eux qui vous ont accepté et qui vous ont associé à leur démarche musicale. Vous avez appris beaucoup à leur contact.
C'est ça. Et je continue d'apprendre beaucoup. Chaque fois que j'y vais, je les remercie du fond du cœur. Vraiment, c'est comme une deuxième famille pour moi. Voilà.
Et c'est tout à votre honneur. Et comme quoi, bien que tous les racistes de la région ou d'ailleurs soient soulignent ce qu'il y a de parfois discutable dans la violence sociale, qui est aussi parfois le fait des gitans dans la région. Enfin, nous, on est à côté de Nîmes ici. Et pour ma part, je reconnais que parfois c'est chaud. Bien entendu, il y a aussi quelque chose, un aspect qu'on ne devrait pas oublier, qui est l'aspect chaleureux, fusionnel, lié à la culture en général et à la musique en particulier. Que vous soulignez notamment dans votre expérience qui a été heureuse. Et du coup, je ne peux pas m'empêcher de me poser une question. Le swing manouche a été largement commercialisé. Là, ça va être un petit peu la question méchante de l'interview. A été largement commercialisé. Thomas Dutronc se l'est réapproprié au point que certains ont tendance à penser, de manière un peu abusive à mon sens, mais c'est un point de vue qui est aussi légitime, que finalement le swing manouche, c'est une musique de bourgeois. Alors qu'à l'origine, c'est pas le cas du tout. Vous-même, sur cet échiquier où il y aura toujours des gens pour vous dire que vous êtes un bobo, ou d'autres pour vous dire que vous êtes un genre de corrompu, puisque vous, en venant d'une formation académique, vous vous êtes laissé tomber si bas que vous jouez de la musique populaire. Je suis sûr qu'il y a des imbéciles qui vous ont dit ça, déjà. Comment vous, entre Caribes des Scylla, entre ces deux écueils, vous vous situez, comment vous progressez, vous menez votre barque?
À vrai dire, je pense pas vraiment à tout ça. Je me concentre sur ma musique, sur ce que j'aime, sur comme j'aime la jouer. Et elle se transforme au gré des rencontres et de mon évolution personnelle. Et après, c'est sûr que le jazz manouche a toujours été... et le peuple manouche a toujours été marginal.
Mmh. Et par essence, ouais.
Voilà, et ce côté marginal a toujours eu un succès auprès des populations un petit peu bourgeoises, justement tellement académiques. Tant mieux pour eux. Après, je pense que c'est vraiment une musique qui touche tout le monde aussi, parce qu'elle est simple et qui ramène les gens à eux-mêmes, à une simplicité, un naturel qui touche.
Voilà, vous êtes un garçon poli, Jérôme Brechtman, mais je crois que ce que vous avez voulu me dire, c'est « je m'en fous, je les emmerde ». En gros, c'est... mais je comprends tout à fait, c'est tout à fait l'attitude qu'il faut avoir dans ce genre de situation, à mon avis. Toujours, écoutez, merci en tout cas d'être venu présenter ce projet musical, un de vos nombreux projets musicaux, et on vous en souhaite bien d'autres. C'est au Théâtre des Amants, à 22h, Accord Nomade, que vous jouez depuis le 14 juillet jusqu'à la fin du festival, le 29, jusqu'à dimanche soir. Comment ça se passe pour le moment?
Très bien.
Alors Sandra?
Un peu mieux.
Très bien. On est vraiment très agréablement surpris. On savait pas du tout. On savait pas du tout comment ça allait se passer. C'est la première fois qu'on fait Moi, j'avais déjà fait le Festival d'Avignon avec d'autres projets où j'étais pas leader, on va dire. Et là, c'est vraiment la première fois que je le fais en tant que meneur de projet avec, avec Sandra. Et donc, c'est une découverte et on a beaucoup de chance. Dès le premier soir, on a eu plus de 20 personnes.
Ah, le soir du 14 juillet, carrément.
Dès le premier soir. Bien et joué. Puis, ça n'a fait qu'augmenter après. On a fait avant-hier une salle comble. On a été à 50 personnes et voilà,
on a des très bons retours.
On a des très très bons retours. C'est vraiment, voilà, c'est super.
La salle est comble et les gens sont comblés. Et voilà. Vous aussi.
Et nous aussi.
Et
nous aussi.
Eh bien écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une bonne fin de festival.
Merci
Jérôme, merci Sandra d'être venue nous parler de ce projet musical Accord Nomade qui, je le répète, est joué chaque soir à 22h au Théâtre des Amants. Et pour vous donner une petite idée de la substance musicale que vous pourrez apprécier lors de ces concerts, chers amis, eh bien, je vous propose d'écouter une reprise du Swing de Paris, un classique de Django Reinhardt, dans la version de Jérôme Brachmann et de son quatuor.